écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 7 novembre 2009. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR, cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le programme plus vieux que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Vous avez 72 ans, vous êtes passé par tous les styles. Comment vous êtes venu à la bande dessinée ?
Penchant naturel. Quand j'avais 3-4 ans, dès que j'ai su tenir un crayon, j'ai commencé à faire des griffonnages. Et puis je me suis obstiné. Et voilà, j'y suis encore.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Dastrich. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour Ultimatum.
Bonjour Deathscritch.
Excusez-nous pour les niveaux sonores qu'on a un peu de mal à régler en ce moment. Du moins pour le stream, pour la diffusion FM ils sont nickel. On est désolé pour la qualité du stream. On a eu hier 3 coupures de courant un peu sauvages. Déjà la semaine dernière on a eu des problèmes. Et on n'était pas sûr d'avoir une émission de bonne qualité dans les temps. Donc on est désolé pour ceux qui nous écoutent sur le stream et sur le podcast, mais donc on a des sautes de niveau sonore qu'on a du mal à régler. Alors que sur la diffusion FM, là le traitement de son est nickel. J'espère que tu vas bien.
Eh bien écoute, flotch parce qu'il pleut beaucoup ici, mais
ah bah, c'est
sinon...
pas trop tôt. C'est pas trop tôt, c'est la fête à la grenouille. Hein. Voilà. Moi je suis un peu sur les nerfs, mais ça c'est un truc, je veux dire un petit peu private. Non, même pas, voilà. Il y a des gens qui tiennent des commerces et qui estiment qu'un commentaire non élogieux est un mauvais commentaire, donc il faut menacer d'un procès. Bon, personnellement, je les attends de pied ferme. Ceci dit, on va commencer par un agenda, d'une manière complètement différente. Cet après-midi, à la librairie Terre de Légende, Christophe Gibelin dédicacera Les Ailes de Plomb, dont on est au 6e tome, je crois, chez Delcourt, et aussi son artbook aéro, puisque c'est un grand passionné de tous ces avions des années 30, 40, 50, 60. D'ailleurs, on le voit, hein, justement, dans Les Ailes de Plomb. Christophe Gibelin, donc, sera en dédicace tout à l'heure à partir de 15h. La semaine prochaine, si je me trompe, il y a le Salon du Livre Midi-Pyrénées, qui aura lieu, je pense, à l'hôtel Dieu, je l'ai pas noté, voilà, je l'ai fait un petit peu en quatrième vitesse, mais il y a aussi quelque chose qui se passe, je vais dire, d'un peu plus style médiéval.
Oui, donc c'est dans la région.
J'adore les transitions, je t'ai pas prévenu.
Oui. En plus, j'ai vu qu'il était pas marqué sur le programme, mais bon, c'est pas grave.
Je vais copier-coller rapide. Hein.
Alors, donc ça se passe à Grenade. Donc c'est pas en Espagne, c'est Grenade à côté de Toulouse. Donc ça s'appelle Grenade pavé de légende et c'est un week-end médiéval et fantastique. Donc depuis hier jusqu'à demain, et donc c'est autour de la fantasy, du cinéma, les jeux de société, les jeux vidéo et d'autres événements. Donc il y aura une photo sur Carcassonne, une exposition d'armes, armures médiévale, démonstration de reliure toute la journée. Il y aura des interventions d'auteurs sur des conférences sur l'iconographie du cloître de Moissac, des diaporamas sur des abbayes, des conférences sur les croisades, sur l'Occident médiéval, etc. Et il y aura également donc le Moyen-Âge qui revit dans la rue principale de Grenade et le jardin de l'église, parce qu'il y aura des reconstitutions, combats à l'épée, jongleurs de feu, campements médiévaux, tavernes, catapultes, etc. Donc catapulte, à mon avis, ça m'étonnerait qu'elle soit à l'échelle 1, mais...
Si, pourquoi pas, hein. Ouais. Ah, y en a un dans la région.
Ensuite il y a des jeux, alors ça c'est vachement intéressant. Je pense il y aura une initiation à l'ancêtre du rugby qui est la soul hall de dimanche matin. Donc je pense que ça va être intéressant de voir l'ancêtre du rugby.
T'as jamais joué ça, la soul en non, colo?
Non. Moi, j'étais pas...
T'as fait pas de vie sociale?
Mais non, j'étais
avant internet.
Voilà. Et donc on pourra aussi essayer les jeux de société comme Munchkin, Loup-Garou, World of Warcraft. Ensuite, cinéma.
World of Warcraft, à mon avis, c'est beaucoup moins outdoor que Loup-Garou, qui se joue un peu n'importe où d'ailleurs.
Bah, World of Warcraft, ça, oui, enfin, oui, oui, c'est tout à fait, oui. Le Loup-Garou, le tout...
Ou alors, faut sortir le petit Asus, tu vois, pour jouer, c'est pas génial.
Voilà. Sinon, la projection, évidemment, de la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, à partir de ce soir à 19h. Donc, il y aura des entr'actes et des, heureusement, et des collations prévues, puisque c'est quand même 12 heures de film non-stop. On a aussi Sacré Graal des Monty Python, ce sera demain à 15h. Également, il y aura le concert du Null Band ce soir à 21h. La place est à 10€ et donc ils seront en dédicace à partir de 16h cet après-midi pour dédicacer leurs trois albums.
Wow.
Le Null Band qui n'était pas revenu dans le sud-ouest depuis Lavore.
Ça fait 3 ans.
Oui, ça fait 3 ans.
Ça fait 3 ans, ouais.
Voilà, donc si vous voulez des renseignements, il est encore temps, je pense. Donc c'est à la librairie Grand Selve à Grenade et vous trouverez toutes les infos sur le net.
Voilà, dimanche prochain à Ramonville, à la salle des fêtes au parc technologique du Canal, il y a la bourse de la BD. C'est une bourse d'échange, je veux dire, c'est que de la bande dessinée d'occasion, des éditions rares ou bien des fonds de grenier ou des collecteurs absolus. Le 28 et 29 novembre, ça c'est beaucoup plus loin, il y aura le 3e Toulouse Game Show qui aura lieu à Diagora à la Bèche. Malheureusement, cette année, il se trouve qu'on ne pourra pas faire de direct. Je veux dire, tant mieux pour eux. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'exposants qui viennent, qu'il y aura encore plus de monde que l'année dernière.
C'est difficile.
On va bien s'éclater, mais on va se démerder. On fera une émission probablement préenregistrée avec les gens qui seront sur place, qui sera diffusée à samedi à midi, mais qui sera disponible en podcast dès la matinée pour que les gens qui attendront sous la pluie et tout, on leur dise « Allez-y, téléchargez sur le net et écoutez-nous ».
Voilà, qui seront déguisés en Pikachu géant pour pas qu'ils trempent trop leur costume. Ils auront la compensation de nous écouter sur le baladeur.
Exactement. Et pour terminer, Serge Pelé sera en dédicace et en exposition à la librairie Terre de Légende à Toulouse, toujours le samedi 5 décembre pour le 3e tome de la série Orbital. En attendant, en dehors de la région Midi-Pyrénées, si vous êtes du côté d'Amiens, l'association On a marché sur la bulle organise cet après-midi, normalement. Donc, ils l'auront par le podcast, donc un peu tard, hein, je suis désolé. Il y aura donc une dédicace des 22 auteurs dans 5 librairies dispatchées dans tout Amiens à propos du collectif Cicatrices de Guerre que je vais chroniquer maintenant. Mais aussi, il y aura... à l'historial de la Grande Guerre à Péronne, c'est pas très loin d'Amiens, là aussi, une exposition des planches, des recherches, plus une fresque géante qui sera dessinée. Ce sera le 11 novembre prochain. Ça n'est pas un hasard hein, qu'on en parle. Il y a un peu une triple actualité, je veux dire, autour de cette guerre et de ses conséquences qui a lieu ce week-end. Donc c'est pour ça qu'on a voulu parler de Cicatrices de Guerre maintenant. Donc c'est un album collectif qui sort aux éditions de La Gouttière, qui est, je veux dire, le bras éditorial de l'association On a marché sur la bulle, qui sont les organisateurs du festival de bande dessinée d'Amiens. Faudrait faire un petit peu d'histoire, je veux dire, comme d'habitude, je veux dire, remettre en situation. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Comme 1914, l'Europe s'embrase suite à un attentat d'une tête couronnée et qu'immédiatement, toutes les rancœurs accumulées entre les États éclatent violemment et vont se déchirer, je vais dire, d'une manière parfaitement brutale et inhumaine. Ça sera, je vais dire, des déchirures qui vont avoir du mal à se recoudre. Il faudra pratiquement 70 ans au vieux continent, 80 ans même, pour que toutes ces déchirures soient refermées. La Grande Guerre, ce sera celle des tranchées, celle des horreurs, comme celle des armes automatiques, des gaz mortels, comme le gaz sarin ou le gaz moutarde, les barbelés, les mortiers, des vies soufflées, des destins mutilés, des rêves brisés. Un assassinat industrialisé, des assauts parfois complètement vains pour des buts dérisoires comme le besoin d'une gloire personnelle d'un général dans sa salle d'état-major ou la protection d'une usine d'un ami industriel voire député. L'armistice de 1918 est un constat d'impuissance, une guerre de position qui a fait des millions de morts, mais des vainqueurs et aussi en aussi mauvais état que des vaincus. Oui, finalement l'Europe en sera définitivement brisée. La guerre des aura eu un prix exorbitant. Au final, un redécoupage des États qui ne satisfera personne et qui sèmera les germes de la guerre suivante. Et encore d'une autre guerre, mais froide après, jusqu'à la guerre qui a détruit la Yougoslavie. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est qu'il a fallu attendre la mort du dernier poilu pour que les commémorations du 11 novembre se fassent conjointement avec le chef d'État français et allemand. Oui, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, c'est la première fois qu'ils seront ensemble pour, commémorer le 11 novembre, 101 ans après. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, alors que tout le monde se souvient de cette photo où Mitterrand tient la main à Helmut Kohl, et c'était pour fêter l'armistice de 1945. Dans ce paysage lunaire de cette guerre des tranchées, des champs transformés en gadoux de cadavres, des villages rasés, des barbelés gavés de chair putride, 15 histoires y sont racontées par des dessinateurs au style très différent, mais dont la vision de chacun est franchement touchante. Celle de jeunes envoyés en haut front, celle des enfants qui se demandent quand reverront-ils leur père, celle de villageois dont l'univers part en cendres et en gadoux. Cicatrices de guerre, c'est aux éditions de La Gouttière, c'est un collectif qui est donc édité en collaboration avec l'historial de la Grande Guerre qui est à Péronne. On va fêter les 101 ans du 11 novembre la semaine prochaine, mais aussi la réunification de l'Allemagne et la réunification quand même. L'Allemagne a été splittée suite à la Seconde Guerre mondiale, mais surtout ce sont des idéologies qui sont arrivées, je vais dire, juste qui ont éclos pendant la Première Guerre mondiale. Donc là aussi, c'est un point très important, je vais dire, de l'histoire. Tout est parti en 1914 et tout s'est résolu finalement, ben, il n'y a même pas 15 ans. Et c'est ça qui est, je vais dire, très important dans cette histoire. Cicatrices de guerre, un album collectif que je vous recommande chaudement. Oui, Thomas, tu l'as vite feuilleté, c'est impressionnant, hein, graphiquement.
Oui, oui, c'est le propre.
C'est Paul Gillon qui a fait la couverture et les dessins de garde, celui qu'on a entendu en intro là dans l'interview. Mm-hmm. Donc, ça reste des auteurs en plus qui sont attachés à la région, puisque je crois que dans le cadre où ils étaient en binôme, il y avait systématiquement au moins un auteur qui était de la région, je vais dire, d'Amiens, de Picardie.
Attends, Marx. Oui, oui, mais en fait, j'ai feuilleté. Donc, effectivement, comme tous les recueils, ça fait le grand écart au niveau des styles, mais je pense que ça mérite. T'as de la poésie, t'as beaucoup d'histoires sans parole aussi. T'en as certaines qui sont très graphiques, d'autres plus BD schématisées. Donc, je pense que ça vaut le coup. Hein.
C'est en tout cas un très beau bouquin. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir, quand on fait une œuvre collective, d'avoir un style graphique unifié. Là, c'est pas du tout l'intérêt. Mais en tout cas, qualitativement, il est d'un très haut niveau. Cicatrice de guerre, donc. On se retrouve, je veux dire, plus de 30 ans après, mais toujours dans une guerre mondiale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en janvier dernier, des collégiens qui sont scolarisés dans le département de la Charente, membres du Conseil Général des Jeunes, avaient remis leur prix Actua BD Jeunes à Romain Hugo, et c'était en direct dans l'émission Supplément Week-end, ici, sur notre antenne, pas ici, on était en extérieur. On avait été très bien reçus d'ailleurs par le Conseil Général à Angoulême. Et ben là justement c'est le deuxième tome, Le Grand-Duc, qui vient d'arriver, toujours scénarisé par Yann et dessiné par Romain Hugo.
Hugo à l'époque nous avait dit à laquelle planche il était, je sais plus, je crois que c'est 17 ou
oui, mais il me semble que c'était ça, oui. Ouais. Et donc ben voilà, on est début novembre et donc le deuxième tome du Grand Duc Camarade Lilia vient de sortir dans la collection Cockpit chez Paquet, qui est une collection qui est dédiée à l'histoire de l'aviation. On replante des corps rapidement, hein. C'est celui du front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale vu du côté des aviateurs. On a l'Oberlieutenant Wolf du côté allemand, un as du pilotage, mais surtout un militaire qui est issu de l'aristocratie, qui est plutôt la vieille école et pas franchement en faveur de ces nazis qui considèrent à la fois comme fanatiques et païens. Mais surtout, il a vu dans le premier tome la fin du siège de Stalingrad et le reflux des troupes allemandes en 1943, en décembre. De l'autre côté, du côté communiste et du côté rouge, la camarade Lilia, qui pilotait les avions légers de reconnaissance avec d'autres femmes, ceux que les Allemands appelaient les sorcières rouges, parce que elle pilotait des avions complètement légers, des biplans, et pourtant malgré tout arrivait à faire du dégât. Et Lilia s'est retrouvée au début du premier tome à la chasse, un milieu éminemment masculin où elle va devoir jouer des coudes pour s'y faire respecter, pour piloter des vrais avions de chasse. Le deuxième tome se déroule en automne 1944. La situation commence à devenir critique pour les nazis. Un débarquement allié en Normandie, un autre en Italie, puis en Provence. Ils continuent à remonter, à revenir sur la Belgique, ce qui leur ouvre la voie sur la Ruhr. Tandis qu'à l'est, les troupes de l'Allemagne refluent vers la Pologne dans une débâcle monumentale. Lilia est devenue une pilote célèbre, un exemple au régime, un sourire éclatant de sorcière rouge qui a balayé de multiples nazis. Bref, c'est une véritable icône pour la propagande. Tandis qu'à l'est, les troupes de l'Allemagne refluent vers la Pologne dans une débâcle monumentale. Mais les tensions sont encore très présentes, notamment par la présence très lourde des officiers politiques. Wolf, lui, est de plus en plus désabusé. Il a beau avoir un sens du pilotage hors pair, cela ne servira plus à grand-chose et il semble bien que sa chance proverbiale l'abandonne. Ce qui lui importe, c'est que sa fille et sa femme soient à l'abri des bombardements et ont quitté Berlin pour Dresde. Bon, petite précision pour vous, bande d'incultes, Dresde était...
Dresde, je crois.
Dresde n'avait pas, je vais dire, d'usine d'armement autour et donc avait été relativement épargnée par les bombardements alliés. Jusqu'en décembre 1944, où là, ça a été le tapis de bombes et où il y a eu un nombre de morts absolument hallucinant. C'était largement supérieur à celui d'Hiroshima. C'est dire si il a vraiment pas de bol, là. Les destins donc de Wolf et de Lilia vont se croiser une fois de plus au sol. Une fois de plus, l'album est littéralement superbe. Chaque dessin de Hugo est d'une précision sans faille, aussi bien sur les armes que sur les corps. Les planches des batailles aériennes sont mortellement superbes. Il n'y a pas à redire. Ça reste, à mon avis, il y a vraiment eu, d'après ce qu'on a compris, c'est que vraiment ça a été l'unanimité dans le jury sur cet album. Et ben là, une fois de plus, on peut être que d'accord avec donc les jeunes du Conseil général des jeunes de Charente. Yann au scénario et Romain Hugo au dessin, Le Grand Duc, le deuxième tome, Camarade Lilia. C'est un très très haut niveau, ça vole très haut, c'est vraiment un excellent bouquin, c'est dans la collection Paquet chez Cockpit.
Pardon, vas-y. Si vous voulez choper Hugo pour avoir une dédicace à Angoulême, vous pouvez pas vous tromper, c'est celui qui a un blouson d'aviateur.
Oui. D'ailleurs, je sais pas si c'est un blouson d'aviateur soviétique, je ne suis pas sûr. Ce serait une question à lui poser, hein, je pense peut-être. Pour aller très vite et changer de fond sonore parce que je suis en bout, voilà. Ciel en ruine, troisième tome, s'appelle Au rideau. C'est Philippe Pinard au scénario et Olivier Doguet au dessin. C'est dans la collection Cockpit chez Paquet. C'est exact, ça se passe exactement au même moment hein, que le Grand-Duc, mais sur le front de l'Ouest cette fois-ci, plus exactement dans une Allemagne qui se rapproche, qui voit de plus en plus près les bombardiers alliés. On recrute les pilotes de plus en plus jeunes. Nikolaus est l'un de ces novices qu'on a rapidement mis dans un cockpit et dans les dernières heures d'un Reich malade, la Luftwaffe envoie ses dernières cartouches. Des avions ou des armes parfois à peine expérimentées, dont la fiabilité n'est même pas sûre. Les combats sont bien réglés, la déchéance des aviateurs de plus en plus sous et défait, n'a pas besoin d'être plus montré que cela. Gros problème. C'est pas un dessin, je vais dire. Je pense qu'il utilise de la peinture. Hein. C'est la couleur directe que fait Romain Hugo. Olivier Doguet, lui, il fait de l'infographie.
Et c'est de une la quoi
C'est principalement du dessin vectoriel. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Alors, ça permet d'avoir une précision chirurgicale, mais c'est froid. D'un autre côté, vu que le parti pris graphique est justement d'être proche de la ligne claire, c'est une volonté tout à fait louable. Je veux dire que c'est proche. Thomas, lui, de suite, il a dit « Ah, on dirait du Black et Mortimer ». Oui, ça en est, c'est un peu dans cette idée, je vais dire, à la floque et tout ça. Malheureusement, voilà, ça n'est pas fait au pinceau, c'est fait à l'ordinateur. Par rapport à la série que je viens de chroniquer, il n'y a aucune émotion qui sorte franchement de l'album. Et pire, les erreurs graphiques sautent d'autant mieux aux yeux. Des textures qui ne suivent pas les angles de dessin, des plaques minéralogiques trop modernes, et surtout des crasses qui sont propres. Alors personnellement, moi je trouve ça... je trouve ça un petit peu dommage. C'est froid. C'est même pas plastique. Je veux dire, il y a des choses qui manquent. Autre souci, on a une impression malsaine à la lecture du scénario que les aviateurs étaient totalement déconnectés, absolument pas au courant des bases œuvres de la SS. Mais surtout que ne sont plus présents la paranoïa des purges pourtant si bien décrites finalement dans Le Grand-Duc. Alors c'est un album qui est lisse, qui est un peu trop lisse, et malheureusement, tout ce qui est défaut en ressort immédiatement, ça pète aux yeux, c'est vraiment dommage. Pour les fans d'aviation, de la Seconde Guerre mondiale et tout ça, à mon avis, ils auront le moindre boulon et tout ça, parce que je suis prêt à faire le pari que certaines choses sont peut-être modélisées à partir d'éléments 3D. Ciel en ruine, le troisième tome s'appelle Au rideau, de Philippe Pinard au scénario et Olivier Doguet au dessin. Dans la collection Copict chez Paquet, moi je vous recommande largement plus ce Grand-Duc. Oui, du sport, il a dû se marrer, ma prononciation Allemagne allemande digne de Funès. Ou je ne sais
ouais,
pas.
Non, mais bon, ça m'a fait marrer quand tu m'as dit qu'il n'y avait pas eu de commémoration depuis 110 ans, quoi, parce que bon, il me semblait que la guerre de 14.
Non, 101 ans, il n'y a pas eu de commémoration commune entre les deux chefs d'État.
Oui,
il y a eu pour celle de 1945, mais pas celle de 1918.
Mais si je calcule bien, ça remonte donc à plus longtemps que la Première Guerre mondiale.
Non, je te parle de commémoration commune pour la Seconde Guerre mondiale. Pour la Première Guerre mondiale.
Ça fait 101 ans, c'est vrai que 101 ans, 1914, il faudra
91 ans, pardon.
2014, ça fait 1908.
Ah, attends, toi aussi, tu... bien. Bon, alors c'est moi qui ai écrit trop vite, d'accord.
Donc,
okay.
Je veux bien, mais bon...
Mais toi aussi, t'as fait une erreur à l'instant, donc... C'était guère mieux. Je le corrige de suite. Effectivement, c'est une grosse erreur.
Révisez vos maths avec supplément week-end. Non, mais c'est bien parce que du sport, il arrive pour faire du bricolage sur son casque aussi avec la pince, l'outil et tout. Il amène la trousse à outils. C'est cool.
Ah, mais ici, il faut avoir son matériel. Il faut avoir sa caisse à outils, hein, radio éphémère. Tu le sais, hein, tout le monde le sait de toute façon. Quoi. Non, je voulais conclure parce que bon, bah, comme c'est le troisième, là c'est le troisième que tu nous tapes sur la guerre et tout. Tu vas bien nous taper l'intégrale de Buck Danny, non?
Non, j'ai quelque chose de beaucoup plus drôle maintenant.
Ah, dommage.
J'ai Ali Mahmoudi qui est pas un inconnu à Toulouse, en tout cas pas directement. Arabico, c'est un triptyque. Le premier tome s'appelle Liberté. C'est dans la collection Astrolabe chez l'éditeur Quadrant. Je rappelle que Quadrant a été monté par Denis
Bajram
et Cadran
Solaire.
Voilà, et sa copine. Donc c'est les éditions Cadran Solaire effectivement, mais je crois qu'il a raccourci à Cadran tout court pour que ça soit plus facile à retenir.
Valérie Mangin.
Valérie Mangin, voilà. Et c'est Corinne
Bertrand,
qui est une ancienne attachée de presse de chez Delcourt, qui est la directrice éditoriale de Astrolab. Et c'est un excellent bouquin Rabico. En fait, c'est un bouquin qui tombe pile poil, je vais dire, pour l'actualité. Et dont les derniers événements tombaient un poil court pour en faire venir l'auteur, puisque donc il est à Toulouse. Et là, c'est dommage, je le regrette. J'aurais aimé le faire venir pour le coup, mais là, on était vraiment pressé par le temps, parce qu'on peut pas passer à côté de suite. Halim Mahmoudi est un dessinateur de presse. Il vit à Toulouse, et on imagine à son nom au quartier qu'il décrit et qu'on suppose où il habite. Hein. De toute façon, il n'y a que trois quartiers vraiment chauds à Toulouse, mais c'est déjà largement suffisant, hein, plus les autres qui sont moyennement chauds. Hein, on connaît de suite les adresses difficiles. On imagine quand même que Halim n'a pas eu la vie facile tous les jours. Il est illustrateur, caricaturiste, il a collaboré à Intramuros, à la Gazette de l'Utopia, donc on a sûrement vu ses graphismes, ses dessins quelque part, et ceux qui écoutent FMR en FM connaissent très probablement, ont très probablement au moins vu une fois ses illustrations. Il a ensuite emménagé au Québec où il a travaillé pour la presse régionale sous les soutiens de Régis Loisel, et il vient de sortir cette histoire, celle d'un jeune collégien dont le surnom porte le poids de ses origines, où il croise quotidiennement une police prompte à contrôler n'importe qui, mais pas sur n'importe quel hasard, où son père est en prison, sa mère a fort à faire et a du mal à comprendre, je veux dire, un peu de la société française par moment, et son frère, diplômé Bac plus 5, doit être le seul de sa promo à ne pas trouver d'emploi. Alors vous imaginez qu'avec les dernières déclarations de cet immigré auvergnat qui est Brice Hortefeux, ou que socialiste d'origine qui est Éric Besson, le débat sur l'identité française, soi-disant ouvert à tous, ne pouvait tomber en pire collision avec cet album. Car plutôt que de se poser la question qu'est-ce qui fait que vous vous sentez français, est-ce qu'il n'aurait pas été plus juste finalement de poser une question sous un autre angle? Pourquoi, alors que vous en avez le statut, ne vous sentez-vous pas citoyen français? Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce papier d'opinion dans le journal Le Monde, le premier écrit par un de leurs journalistes, hein, d'ailleurs, qui ne soit pas le rédacteur en chef. Moi, Mustapha Kessous, journaliste au Monde et victime de racisme. C'est un article qui a vraiment, vraiment, vraiment fait du bruit, et dont bizarrement on en a très peu parlé à la télévision et à la radio. On aura beau, finalement, avoir des diplômes, travailler au mérite dans une entreprise reconnue. Rien n'efface un nom, rien n'efface une couleur, rien n'efface les traits du visage, rien n'efface une origine contrôlée. Alors pourquoi finalement ne pas en être fier? Pourquoi finalement dire « oui, mais je suis quand même français » Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a ses limites? Chacun des titres de ces triptyques reprendra une des devises de République française. Ça n'est pas un hasard. Donc le premier tome s'appelle « Liberté », la série s'appelle « Arabico », c'est de Halim Mahmoudi. C'est à découvrir, c'est aux éditions Quadrant. Et si l'identité nationale doit être un débat, que ceux qui souffrent de ces mots doivent avoir en priorité la parole. Et à mon avis, cette BD sera un moment idéal pour en parler. Alors je parlais de débats soi-disant libres, puisqu'ils ont ouvert un site web là-dessus. Et c'est marrant, mais une partie des commentaires disparaît, une partie des forums se ferme au fur et à mesure.
Puis il y a les commentaires qui sont filtrés aussi. Parce que t'as dû mettre... Selon que tu mettes un commentaire pro-Sarkozy ou anti-Sarkozy, il est affiché de suite ou non.
Oui.
C'est une expérience qu'avait tenté l'édition spéciale sur le canal d'ailleurs. Ils ont montré,
c'était pas les seuls. Et c'est là où on se dit, ah oui, alors franchement, est-ce que vraiment le débat est libre ou non? Et à mon avis, moi je fais... je pense que c'est le moment où jamais, Arabico, il faut que Halim Mahmoudi... ce bouquin soit vraiment mis en avant parce qu'il est vraiment touchant, il montre bien l'ambiance, hein, je veux dire, des cités, mais surtout il faudrait que l'auteur vienne témoigner justement dans tout ce qui est grande presse, tout ce qui est grands médias et tout ça. Pour moi c'est un coup de cœur, il faut qu'il soit mis en avant. Arabico est vraiment un très grand album. Voilà. Et j'essaierai de faire en sorte que quand même d'autres animateurs à la radio en parlent. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Je vais publier, à mon avis, dès lundi. Toi, Thomas, tu l'as lu, mais enfin, tu l'as feuilleté. T'as eu 5 minutes avant l'antenne, mais c'est vrai que graphiquement, t'as eu un peu de mal, peut-être.
Non, enfin, c'est vrai que juste avant, j'avais feuilleté les Grands Ducs. Bon, alors voilà, moi, j'ai tendance à aller vers un graphisme plutôt à la Grands Ducs, mais comme je l'ai feuilleté pendant ta chronique, c'est vrai qu'on voit le talent de caricaturiste du gars, et quand tu lis un peu le texte, tu vois que c'est pas, enfin que c'est pas redondant par rapport au graphisme, ça, c'est que le texte est pas en contradiction, mais le graphisme est plutôt rond, avec des bouilles rondes, et c'est vrai que quand tu lis les dialogues, c'est pas du tout ça, donc voilà.
Vas-y, spécial casse dédié pour toi, Éric Besson, toi que j'aime en tant que socialiste, pour toi, Brice Hortefeux, t'as raison de dire que quand il y a un Auvergnat, ça va, quand il y en a plusieurs, c'est problématique. Moi, je te dis, Requiem pour un jerk. Faultline, Brian Molko et Françoise Hardy. Supplément week-end sur Radio FMR. Listen to the organ that I play for you. Since you got no choice, hear me through. You look as if you like it, but you seem reserved. It's my requiem for a jerk. Faultline, Brian Molko, Françoise Hardy, c'est une reprise bien évidemment du Requiem pour je ne sais plus qui, c'est dans la collection, c'est dans Monsieur Gainsbourg Revisited, compilation qui est sortie il y a un petit peu de poids. Et dans l'espace.
Oui, avec des petits hommes verts.
Laisse-moi deviner. Alors, les petits hommes verts, c'est une métaphore sur les Arabes, sur les Noirs et tout ça?
Non, non, c'est juste de la science-fiction avec des...
Ah, alors, c'est avec les frères Bogdanov.
Oui, non. C'est...
Alors, avec Jean-Claude Bourré?
Non, c'est avec De Funès, c'est la soupe aux choux. Bon, alors, voilà.
Bon, allez, hop.
Voilà la BD. Alors ça s'appelle OVNI l'affaire Virginia, c'est par Philippe Auger, c'est édité chez Ankama, et donc ça raconte un fait réel en fait, un vrai fait divers survenu au Brésil, à Virginia, donc sur l'affaire surnommée le Roswell brésilien, puisqu'à Virginia, donc c'est une petite ville du Brésil, le quotidien de ses habitants est bouleversé par l'apparition d'étranges créatures aux yeux rouges. Un conducteur aperçoit un ovni, puis doit garder le secret parce qu'il est sommé par les autorités de pas trop parler. Des pompiers répondent à un étrange coup de téléphone, signalant un monstre. Trois jeunes filles se souviendront pour toujours de leur rencontre sur le chemin de l'école. et un médecin, quant à lui, doit pratiquer une drôle d'opération. Alors, voilà, bon, c'est l'apparition de créatures étranges suite à.
C'est pas vieux en plus, hein, ça a moins de 14 ans.
Les années 90, 96, il me semble. Et bon, alors c'est une BD dont le graphisme est fait d'après photo, puisque c'est fait d'après des gens qui prennent la pose, donc ça se voit hein, au niveau du graphisme. On voit c'est du dessin d'après photo. Bon, après c'est vrai que ça rebute un petit peu au départ, après on s'y fait. L'avantage c'est que ça permet d'avoir des cadrages assez osés, c'est-à-dire des plongées assez.
Ça aurait pu être extrêmement statique, comme on a chroniqué d'autres bouquins qui faisaient d'après photo, et en fait non, c'est plutôt dynamique, c'est franchement vivant. Hein.
Oui, voilà, oui, au niveau du découpage c'est vivant, le sens du cadre également. Alors justement, c'est il y a pas mal de minorifiés comme tu peux le voir en feuilletant la BD. Mais en fait, le plus saisissant dans la BD, c'est pas la BD elle-même, c'est la trentaine de pages qu'il y a à la fin, puisque c'est vraiment une réelle enquête qu'a fait le dessinateur. Alors c'est vrai que quand t'as l'habitude un peu d'Ankama, tu te dis mais c'est du lard ou du cochon, est-ce que c'est vraiment vrai ou non?
C'est vrai qu'ils nous ont fait des blagues. Hein.
Voilà. Et bien en fait là, pas du tout. C'est vraiment une enquête. Alors le mec, l'auteur, dans c'est la première BD, Philippe Auger va explorer diverses interprétations du mythe des aliens. Donc t'as le mythe. Bah justement, ce sont des soucoupes, d'autres sont des expérimentations de l'armée, d'autres c'est une manifestation extérieure de l'esprit de Gaïa, de la terre mère. Bon voilà, il y a plein de voilà, et il y a aussi une interview d'un astronaute qui dit que voilà, le secret c'est que ils étaient forcés de fermer leur gueule, mais en fait lui, personne ne lui a jamais posé de questions, mais c'est vrai que lui il a été témoin de phénomènes bizarres.
Non mais je vois de quel astronaute tu parles, et il en parle régulièrement en plus.
D'accord. Et donc voilà.
Point de vue fermage de gueule et tout, pas tant que ça, hein, c'est pas si réussi.
Donc voilà, donc il y a l'interview de l'astronaute, il y a différents documents. Alors d'ailleurs, à un moment donné, t'as une image, tiens, si tu peux me passer la BD, je vais te montrer. À la fin, tu as.
Oui, pour nos amis qui n'ont pas la couleur, on est désolé. Le bouquin est en noir et blanc. Hein,
tu as une image d'un gars à lunettes qui est ici, et tu vas me dire si ça te fait penser à quelqu'un.
Oui, bien sûr.
Il y a quelqu'un qui aurait fait Muta Foukas, par exemple.
Oui.
Et voilà. Bon, j'avais dit ça à Sabrina, elle me dit oh tiens, je crois pas, je trouve pas bon. Ça va.
Sauf que cette fois-ci, il a des cheveux.
Oui, voilà. Bon, c'est vrai qu'on voit que on arrive à identifier quand même les personnes qui ont inspiré les BD. Bon, voilà. Bon, ça reste un album. Voilà, petit format, OVNI, l'affaire Virginia, qu'on vous conseille si vous êtes féru de tout ce qui est
ufologie,
rencontre du troisième type, abduction, si vous prêtez l'oreille à chaque fois qu'il y a Spielberg qui dit qu'il a été enlevé, ou si vous êtes fan de Jean-Claude Bourret. Cette BD est pour vous, les amis. Philippe Auger, OVNI, l'affaire Virginia,
chez Ankama.
Ça fait peur.
Ouais. Et merde, et voilà, j'étais pas prêt, j'ai appuyé sur les mauvaises touches, donc on y va peut-être.
Le plus grave c'est que tu sois prêt un jour et que les gens ne soient plus habitués. Mais là ça va, ils savent que ça va arriver de toute façon.
D'accord. Ah d'accord, fermé. Ok, donc il y a eu un incident, ça arrive. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
On disait qu'il avait une BD.
Oh non, il y en a ras-le-bol, non, mais les Skrulls. C'est quoi, c'est les Skrulls?
Non, surtout quand off tout à l'heure il dit ah mais merde, oui Thomas j'ai squeezé ta BD, donc on la met après l'interruption musicale, surtout qu'au du sport il en a une aussi. Oui, ah t'es contre
pas
dévoiler les recettes, oui c'est vrai. Donc non mais c'est pas grave,
non mais t'es pas sur le bon micro ou il est éteint? Ah bah là ça va mieux. Ouais. Oui.
Bon, tu recales le générique?
Ben non, puisque c'est la BD qu'on fait maintenant.
Ben justement, tu recales le générique pour le
non,
cinéma.
Non, mais ça c'est fait, c'est déjà fait.
Bon,
c'est à qui?
Non, mais je le fais à l'ancienne.
Ah, d'accord, vas-y.
C'est pour ça. Allez, la nouvelle livraison, le Spider-Man 118, c'est le numéro de novembre avec trois histoires. complète, pas de Skrull dedans, je te rassure.
C'est bien la peine de m'exploser les oreilles, espèce de vicieux.
Il n'y a que du Spider-Man avec quelques petits super vilains dans Arrêt imprévu, qui est une histoire assez intéressante en deux parties, qui est assez récente, hein, parce qu'elle est sortie dans le Amazing Spider-Man du début de cette année, c'est-à-dire janvier et février 2009. Mark Waid au dessin, Mark Waid au scénario et Javier Rodriguez à la couleur pour cette aventure qui se passe pratiquement les 9 dixièmes de l'histoire se passent dans le métro en dessous, ils sont coincés, il y a quelqu'un qui a fait exploser une bombe qui a provoqué un éboulement qui a fait s'arrêter la rame de métro. Mais pourquoi
Parce que Sylvester Stallone.
Ouais, non, et comme ça commence journée très pluvieuse sur New York et que Spider-Man qui doit aller à un rendez-vous pour aller rejoindre Tante May pour l'aider à une de ses œuvres de charité, se dit ouais bon l'étoile sur le mouillé ça tient moins bien, donc je vais prendre le métro comme tout le monde. D'accord. Et c'est là qu'il se fait coincer. C'est ballot. Et pourtant il va rencontrer des personnages assez intéressants, dont le papa d'un personnage du début de Spider-Man, on va dire, hein, qui est un petit peu sa némésis, à savoir Jonah Jameson, le papa, figurez-vous, quoi. Tout ça donc dans cette histoire qui s'appelle Arrêt imprévu.
C'est le patron du Daily Bugle.
Voilà. Et là, il va rencontrer son papa dans le métro, en dessous, quoi, tu vois, quoi, dans le trou. Ensuite, une deuxième histoire en rouge et gris, Fill in the Blank, paru également en février 2009 par Roger Stern à l'écriture, Lee Wicks au dessin et Dean White à la couleur. Une histoire classique de Spider-Man avec un vilain qui s'appelle Monochromatique, parce que il a pas de couleur, tout simplement, tu vois.
C'est un peu long quand même.
C'est du Spider-Man sympathique et tout. Et une troisième histoire qui s'appelle La Longue Route de John. J'arrive plus à me relire là, tu vois. John Arendi au scénario, Ramon Bax au dessin et Allen Fasakuala à la couleur dans le Spider-Man 118, donc qui vient de sortir dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, c'est tout, tu vois.
Allez, remets le jingle cinéma maintenant.
Voilà.
Alors aujourd'hui, justement, on va continuer à surfer sur l'actualité, puisque il y a 15 jours, Dysport nous parlait de l'arrêt de la fin de la série Prison Break.
Ah oui.
Mais vous allez me dire, mais Thomas, tu débloques, c'est la même intro que ta chronique de la semaine dernière sur Prison on Fire,
oui.
Mais tout à fait, là maintenant c'est encore en hiver carcéral, décidément,
cool.
Avec le film Un Prophète. De Jacques Audiard. Donc vous allez me dire, le film est sorti depuis belle durée, pourquoi tu attends maintenant? En fait, il est encore à l'affiche, donc pas dans beaucoup de cinémas à Toulouse, dans un seul, à Utopia. Alors les membres de l'ABC...
C'était ça ou aller voir? On vous avait prévenu, 2012, ce film est une bouse. Ça rime.
Oui, il y a des fans du Super Weekend qui me disent ne lancez pas Xavier sur 2012, il va encore nous dire c'est un disaster.
Non, je l'ai pas fait.
Bon,
je varie.
Donc voilà, je disais à nos amis de l'ABC, j'ai vérifié, d'habitude je parle toujours de l'Utopia, mais là c'est vrai qu'il est qu'à l'Utopia. Bon, mais la prochaine fois je parlerai de l'ABC quand il y aura un film que j'ai vu qui sera à l'ABC.
Donc, surtout que l'ABC a rouvert.
Oui. Alors là, il s'agit donc du dernier film de Jacques Audiard avec Tahar Rahim, Nils Arestrup, Adel Ben Shérif et Reda Kateb. Et c'est ensuite l'histoire de Malik qui est condamné à 6 ans d'incarcération et qui apparaît comme une cible facile en entrant dans la prison. Alors déjà, il se fait chourer ses chaussures. Bon, c'est un classique, hein. Parce qu'il se met à plusieurs dessus. Très vite, Luciani, le leader de la communauté corse, lui met le grappin dessus en l'obligeant à tuer un détenu en échange de sa vie et de sa protection. Donc le petit jeune au départ, il faut que je tue un mec, sinon c'est moi qui y passe. Il va tenter de prévenir les matons, mais les matons ils sont les amis des Corses, alors on lui fait un peu comprendre qu'il faut pas compter là-dessus. Faut pas essayer d'aller au mitard en tabassant un gars pour être emprisonné, parce que les combines comme ça, ça marche pas avec nous. Tu vas tuer le mec, un point c'est tout. Donc du coup, bah, il est obligé de tuer le mec, en prétextant justement le fait d'avoir été invité dans sa cellule pour lui faire une pipe. Alors on voit déjà, on le suit pendant quelques minutes avant essayer de comment mettre le rasoir dans la bouche, parce qu'il est en train de pisser le sang, parce que bon, un rasoir dans la bouche, ça fait pas du bien. Donc voilà, c'est, tu te dis oula, le film il commence assez hardos. Bon, c'est vrai que quand il sectionne l'artère du gars, on voit que ça fait à la samouraï, hein, fait pshhh, voilà. Ah bon, d'accord, bon, bah écoute, c'est pas édulcoré. Bon, finalement, heureusement, après, le film n'est pas que violence et glauque, puisque justement on suit le parcours du petit Malik sous bah, le bras protecteur de Luciani, qui lui confie des missions de plus en plus importantes, et Malik arrive ainsi à créer son réseau de contacts et de combines. Alors justement, bah, le film, pour moi, enfin, j'étais vraiment sur le cul. C'est une vraie claque. Après le diptyque Mérine de Richer, et puis avec justement la diffusion de Braco, on a enfin la preuve en France qu'on peut faire des films de genre polar, thriller de qualité, sans pour autant que ça ressemble à du sous-cinéma américain, puisque tu sais, la grosse tendance en France, c'est ah oui, on sait faire du cinéma, mais vous allez voir, on va mettre plein de clins d'œil au cinéma qu'on aime et tout. Arrêtez les gars, faites votre cinéma à vous. Et c'est vrai que c'est soit autorisant, soit bourré de clin d'œil. Et là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est bon, c'est quand même Jacques Audiard est considéré comme un auteur, mais c'est vrai que cette fois-ci, c'est un pur film de genre où tu à la Scarface, hein, c'est pas, sauf que la comparaison s'arrête assez vite puisque on reste dans l'univers carcéral et qu'il devient pas, c'est pas Bigger Than Life avec le nez dans la coque comme Al Pacino. Mais donc voilà. Déjà, la première chose, le film est une claque. Parce qu'il obéit au code du genre et il a son univers propre. Ensuite, ben en fait, c'est un film qui marque les esprits parce qu'il a un vrai souffle. Et c'est un film, enfin pour moi, super, enfin très très puissant au niveau de l'histoire et de la capacité qu'il a à te scier et à te laisser quand même des images marquantes, même après avoir vu le film. On est proche de Oz, hein, bien sûr, puisqu'on peut pas faire une chronique d'une œuvre sur un univers carcéral sans parler de la série Oz. Sauf que là, c'est pas vraiment, on suit pas vraiment les communautés, puisque Malik, il est à la frontière entre deux communautés. Il est arabe, donc il parle arabe avec le, mais il appartient pas à la communauté des Arabes dans la prison, puisqu'il a été très vite sous l'égide des Corses. Donc du coup, il va se mettre aux Corses, il va commencer à parler la langue des Corses, mais sans les avertir. Donc il va quand même faire preuve de pas mal d'intelligence. Quand il arrive dans la prison, il ne sait ni lire ni écrire. Il va quand même apprendre, il va suivre des cours, et on s'aperçoit que le mec, le petit Malik, c'est pas juste la chair à canon, et il va s'en sortir pas par des coups de chance, mais parce qu'il est très intelligent, il est très fin, il fait l'anguille, il va créer des connivences avec des gens avec qui au premier abord ça allait pas passer, qu'ils allaient se taper dessus. Il va commencer à retourner les uns contre les autres, il va jouer justement avec Luciani pour en faire ce qu'il veut, avec son petit air de je te regarde pas en dessous, tout en faisant le gentil garçon. Il va quand même essayer de faire son trou, et c'est vrai que au fur et à mesure du film tu suis la naissance d'un gangster, en fait, d'un parrain, sans t'en apercevoir. Et les scènes d'action, alors ce qu'on peut dire aussi sur le film, c'est que la mise en scène, il n'y a pas de chichi, hein, c'est brutal, c'est sobre, il n'y a pas de grand mouvement de caméra à la Richer, avec la caméra qui tourne pour dire ah, le gars il est pas bien, il va devenir fou dans la prison. Non, là il est dans la prison, il fait son footing, c'est un huis clos. Le film il dure pas mal, il dure 2h30. Mais 2h30 dans une prison, mais tu les sens pas passer, tu t'es scié du début à la fin. Par les personnages, par le scénario, par les retournements. Le premier gars qui doit buter au départ avec la lame de rasoir, il revient comme un fantôme pour dialoguer justement avec Malik. Alors tu te dis, tiens, est-ce qu'au départ c'est un sentiment de culpabilité, finalement c'est un petit peu une part d'onirisme, puisque d'où le titre, un prophète. Parce qu'à un moment donné, il y a une séquence où il annonce qu'il va arriver. Alors, il l'a vu dans un rêve avant. Alors, tu sais pas trop comment tu dois le prendre, à part le fait que ce soit le titre du film. C'est la seule fois dans le film où il fait preuve de cette capacité-là. Ça revient pas après. Bon. Et donc, voilà. Nils Arustrup est absolument énormissime. Là, tu sens qu'il faut pas l'avoir à dos, le mec. Il y a des scènes de confrontation avec Malik. Quand il pète un câble, il pète un câble et tu dis ouais. L'acteur qui joue Malik, c'est un acteur débutant qui s'appelle Tahar Rahim, qui est absolument extraordinaire. Il arrive autant à être convaincant dans le rôle du petit arabe qui va se faire manger tout cru au début, puis ensuite il y a même le visage qui commence à bouger avec les cheveux qui sont parfaitement coiffés. Il a un peu râletier quand il commence à se mettre en costard pour aller négocier à l'extérieur avec les parrains du crime avec qui il veut s'associer le Corse. Il est convaincant sur tous les tableaux. Ça, c'est la grande révélation du film. Et évidemment, les confrontations qu'il a avec le parrain sont vraiment dantesques. C'est un peu le fil rouge du film, la relation au départ basée sur l'intimidation qui va évoluer vers une relation père-fils. Bon, particulière certes, mais père-fils quand même. Donc, Un prophète, on va pas trop en parler parce que il faut quand même laisser la surprise. C'est du costaud, c'est de l'action. C'est énorme.
T'as parlé quand même de film qu'on peut qualifier de séminal. Est-ce que justement c'est un film qui va créer un nouveau genre de ce côté-là et qui est sur lequel pas mal d'œuvres par la suite risquent de trop vouloir s'en rapprocher?
Alors je sais pas, je pense qu'il va quand même inspirer pas mal de producteurs en France pour leur dire oui, c'est possible de faire du film de qualité qui ne soit pas juste dans l'ombre d'un certain cinéma auquel plusieurs auteurs se réfèrent. Créer un nouveau genre, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que au départ, on peut qualifier le film de Scarface-sable ou Scarface-isation. Mais la comparaison, elle s'arrête assez vite. C'est vrai qu'on pourrait qualifier La naissance d'un parrain en prison. Alors, la moralité, c'est un peu douteux puisque le film montre qu'on se sort de la prison que quand on vient un gangster. C'est pas vraiment le propos du film, mais c'est quand même la moralité. Donc voilà. Je sais pas si ça va créer un genre. En tout cas, je pense que c'est quand même une belle preuve. Bon, déjà le film, c'est sûr, il va avoir toutes les récompenses possibles et imaginables.
Et étonnamment, on en a relativement peu parlé.
On a un peu parlé parce qu'il a eu le Grand Prix à Cannes.
Mais sans plus.
Parce que c'est le dernier film de Jacques Audiard. Mais Jacques Audiard, même s'il est estimé par la critique, il avait fait De battre mon cœur s'est arrêté. Mmh. Il avait fait Sur mes lèvres, qui ont été des succès. Des petits succès publics, mais surtout des grands succès critiques, même si le public est venu. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Et je pense qu'il y a quand même matière éventuellement à faire un remake aux USA. Après, pour répondre à ta question, je pense que ça va plus inspirer des gens plutôt que créer un véritable genre en soi. Après, c'est vrai que la sortie simultanée de Braco, de Ludiptic Mérine et de Un prophète, ça prouve quand même qu'on peut faire des trucs.
Il y a matière à faire en France, voilà. Quoi. Tant mieux, c'est une excellente nouvelle.
Voilà, donc Un prophète, film de Jacques Audiard, c'est une bombe.
Le terme est faible. On va faire un long break musical, vous inquiétez pas, on revient après.
Hit the apple when I'm going to shoot. So you could call me William Teller, Rachel Cooper to boot. Mr. Mojo rising on the case again. So tell your mother and your sister and your sister's friends. Like an exterminator running low on dust. I'm buck powder itching and it can't be trusted. In his own trip and then I'm off to Annexia. I gotta get a typewriter that's sexier. My name is Russ and that's all that's it. And I be spitting rhymes wicked like it ain't no shit. I'm stuck to hold it like Jimmy Page. But the song remains the same, so I'm stuck in a rage. Just like Jane when she's going to Spain. I think I'm going away tomorrow just to fool in the rain. Light up the candles and bless the room. I'm paranoid, snow blind, just a black meat fool. One thunder dust and mock one chism. The wild boys run around into some trippin'. Learning to control about the big brother. Trying like hard to not blow my cover. Been a fake and I'm never phony. I got more flavor than the packet and macaroni. Rock dripping from every vowel. I got the soul of the 60s like Ginsburg Tao. Shooting mad ball and I'm always joking. Take it to the hole and I'm surely hooping. Top of the pops like the Lulu show. I'll take a walk on Abbey Road with my shoes off so. I got a splinter though, damn, you know, man, it hurt. I got a Vegemite sandwich for men at work. I keep minds in line with time sublime. So when you search, you find something like a gold mine. A psychedelic meanderings in the poem. I got a pen and pen any place that I roam. Waiting for the sun on a Spanish caravan. Solar eclipse and I'm feeling like staring, man. One cloud of dust and muck, one chism. The wild boys run around into zone tripping. Learning to control about the big brother. Trying like hard to not blow my cover. Something on his tongue and it's starting to stain. Showing up equipped so I can get down. Step up on my ladder and you'll get beat down. Hash bar style so I'm singing Danglo. Waking up the dead like surfing in the rainbow. Just for Coley Rooney, another hay. The fish that saved Pittsburgh with Dr. J. Chucking your ass like a faulty vibrator. Hear me now but you'll probably get the vibe later. Who knows where the wicked wind blows. Case sera sera, I'll just leave it alone. Great space coast to toast up the town tinker. Making midgets with my man like the shrinker. Pass the hoover, throw down the pillows. Cloth on the ceiling, blow rings and billows. Kick off your shoes and relax your feet. Now roll up your sleeve for this lyrical treat. One pot of dust and muck, one chism. The wild boys run around into zone tripping. Letter to control about the big brother. Trying like hard to not blow my cover. One pot of dust and muck, one chism. The wild boys run around into zone tripping. Letter to control about the big brother. Trying like hard to not blow my cover. The wild boys run around into zone tripping. Letter to control about the big brother. Trying like hard to not blow my cover. Bug powder dust and mug one chism. The wild boys run around into zone tripping. Letter to control about the big brother. Trying like hard to not blow my cover.
Bomb the Bass, Bug Power Dust, et c'est un mix par La Funk Mob, bien sûr, hein, c'est les petits français derrière. J'ai pas le truc qui correspond à la série la plus longue.
Ben non, ben justement, alors ça c'est un a priori que beaucoup de gens ont, et bon ben ça fait partie d'un...
Quand j'ai envoyé le mail à Christine, elle m'a immédiatement répondu « Oh non, il va me les casser le menu
!» Ça fait partie des mythes qui ont été savamment entretenus hein, par pas mal de gens, des gens qui l'ont vu, des gens qui se sont fait chier, d'accord. Mais on a eu l'impression que c'était vachement long. En fait, c'était pas si long que ça, hein, parce que c'était des épisodes de 13 minutes, et il y en a eu que 40. Donc c'est pas énorme,
13
énorme.
13 minutes seulement.
Hein. Oui, oui, non, ah mais ouais. C'était pas... C'était
alors que pourtant tout le monde dit que ça a marqué profondément la télévision française.
Oui, oui, ça a marqué l'homme de Picardie. Ça démarre en décembre 68. Alors donc, on s'est tapé déjà durant toute l'année, les événements de mai, tout ce qui en a découlé, tout le bordel.
Plus c'est la diffusion des Shadowhawks, plus la diffusion de Mission Impossible.
Et là débarque donc en décembre 68 cet homme de Picardie et qui est placé juste avant le journal télé, c'est-à-dire juste avant 20h. Hein, donc il n'y avait pas de tunnel de pub à l'époque et tout, il y avait quelques pubs, enfin c'était pas énorme. Donc ça voulait dire qu'il y avait vraiment de la part de la chaîne bien une volonté de diffuser ce homme du Picardie à grande échelle. Alors il faut savoir aussi que pour l'homme du Picardie, c'est le conseiller technique hein, qui a aidé à la création de la série est un type qui était un syndicaliste CGT hein, et qui s'est vachement renseigné dans le domaine des marais, des canaux et de tout ce qui avait trait justement à la profession de marinier. L'homme du Picardie donc c'est Joseph Durtol, interprété magnifiquement par Christian Barbier. Christian Barbier qui est né dans le coin, on va dire, hein, dans la banlieue parisienne, à Saint-Ouen, en 1924, ce qui faisait quand même pas mal d'années, 85 au total. Mais si on dit l'homme du Picardie, pour Christian Barbier, c'est un petit peu une image trompeuse également. Bon, j'ai déjà réussi un petit peu hein, en vous disant que ça n'a pas duré si longtemps que ça, 40 épisodes seulement pour cette série. S'il est ramené justement à ce rôle, c'est un petit peu dommage parce que bon, c'est quand même quelqu'un
qui a eu une grande carrière
qui a été un des bons acteurs du cinéma français qui s'est retrouvé dans pas mal de bons films, on va dire hein, il n'a jamais eu de premier rôle vraiment marquant, ça c'est clair. Mais par contre, hein, il a tout à fait le droit d'avoir l'estime parce qu'il a quand même été dans un certain nombre de films tout à fait plus qu'honorable. Il démarre en 64 avec Lucky Joe, puis une participation dans Weekend à Zuidcote, le film de Verneuil tiré de l'œuvre de Robert Merle avec Belmondo comme partenaire, enfin tout ça. En 65, c'est La Vie de Château de Rappeneau avec Catherine Deneuve, Pierre Brasseur, Philippe Noiret. En 67, L'Homme à la Buique de Gilles Grangier avec Fernandel, Daniel Darieux, Jean-Pierre Marielle, Georges Descrières, Michel Lonsdale. En 67 encore, Le Franciscain de Bourges dans D'Autant Lara avec Hardy Kruger et Suzanne Flon. En 69, il est dans le Melville, un des meilleurs Melville, sinon le meilleur, L'Armée des Ombres, hein, d'après le roman de Joseph Kessel, avec Ventura, Reggiani, Paul Crochet, Jean-Pierre Cassel, Simone Signoret, j'en passe et des meilleurs. Il joue d'ailleurs le rôle du Bison dans, je sais pas si tu te souviens de ce film, L'Armée des Ombres.
Non, pas du tout. Ça fait longtemps.
Donc, la même année, il fait également La Horse de Granier de Fer avec Jean Gabin, où il joue le rôle du gendre, d'un des gendres de Jean Gabin. Et une petite rigolade amusante en 70, Les Jambes en l'air, avec Georges Géret, Sylvain Cossina et Francis Blanche, entre autres. Les Granges brûlées en 73, de Jean Chapeau avec Signoret, Delon et Miu Miu. Trois hommes à abattre de Jacques Deray en 80 avec Delon, hein, tiré du bouquin de manchette de Petit Bleu de la Côte Ouest. En 84, il fait Brigade des mœurs, de Max Pécasse avec Thierry de la Carbonnière, Gabriel Forest, Brigitte Lahaye et Tiki Olgado. En 88, il est dans La Maison Assassinée de Georges Lautner avec Patrick Bruel. Il est également dans Le Maïric de Verneuil en 91, dans Le Paris de Bourdon et Campan en 97. Ah oui, merde.
Oh le pauvre.
Oh merde. Et là, je vous ai cité, pas sa carrière exhaustive, mais enfin bon, les films qui sont parmi les plus connus. Alors, il faut aussi savoir que Christian Barbier, en fait, il avait été révélé à la télé française dans une série qui était passée 2 ans auparavant, L'Homme du Picardie, à savoir Corsaire et Flibustier avec Michel Leroyer. Aïe, 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 magnifique. Excellent, excellent. Il n'y a eu que 13 épisodes de 26 minutes de cette série Corsaire et Flibustier, réalisée par Claude Barma, hein, pas n'importe quoi, et avec, outre Michel Leroyer et Christian Barbier, il y avait également la délicieuse Geneviève Page. Aïe, 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 je te raconte pas. C'était en 66. Christian Barbier, on le retrouve également dans Les Lettres Volées, une autre série de la télé française, 25 épisodes de 13 minutes en 77 avec Bernard Charland, avec André Fillion, et également dans cette mini-série qui a été instillée par la télé française au début des années 2000, en 2001, La Fortune des Rougons. Des Rougons, pardon, d'après l'œuvre d'Émile Zola. Christian Barbier, ben voilà, quoi. C'est pas que L'Homme du Picardie, hein, quoique. Bon, il faut reconnaître, c'était assez chiant quand même. Ça, ce sera pour clore un petit peu.
Et voilà, ça mais, y est, le jeté a ouais, été fait.
On n'y coupe pas.
Non, mais c'est.
Dire que L'Homme du Picardie, c'est chiant.
Non, mais.
Ce sera dans le prochain générique, je sens.
Il y avait peut-être un concept derrière, mais enfin bon, je veux dire, c'était assez lent, quoi, tu vois, comme déroulement.
Ce que j'aime
quoi.
Bien, c'est que du sport, il commence la chronique en disant, ouais, mais finalement, c'était des petits épisodes, et puis,
mais heureusement, chiant, non, hein. Mais heureusement, heureusement, quoi, d'ailleurs. Non, mais heureusement, d'ailleurs. Parce que si tu veux, c'était assez linéaire, hein, comme intrigue. Et, bon, en plus, quoi, que je veux dire, ouais, les déplacements en péniche, tu vois, ça va pas vite. Je sais pas si de péniche, c'est pas flamboyant.
Je sais pas si tu te souviens de la rubrique à braque dessinée par Gottlieb dans Pilote, avec L'Homme de Picardie, où en fait c'est un immense travelling où tu le vois arriver de très très loin dans la brume, il fait une planche complète là-dessus. Donc c'est, à mon avis, ça a dû marquer, oui, quand même.
Non, mais bon, et en plus Christian Barbier.
Non, mais c'est un acteur de très haut niveau. Par contre, on peut pas le lui retirer. On ne peut plus le lui retirer maintenant. Voilà.
C'est le John Finn français, de toute façon, sans problème.
Très à 6 minutes dans le Super Week-end, du sport est en train de changer les piles de la zapette. Oui, je sais, j'adore te faire rire pendant que tu bois ton Perrier, c'est drôle. Ça ressort, les bulles ressortent par le nez.
Ouais, une série inédite à la télé cette semaine, et en plus c'est sur Orange Ciné Nouveau, les salopes, toutes les séries qui nous pompent,
ouais,
c'est
ils
dégueulasse.
Peuvent,
hein.
Ils peuvent, ils gâtent les 12 000 abonnés.
Ouais, non, mais c'est dégueulasse quand même, quoi, tu vois. Quoi.
Ouais, 12 000 abonnés, c'est super.
Bah ouais. Alors, c'est ce soir à 20h40, et c'est une série anglaise qui peut être intéressante, on va dire, hein, Being Human. Alors, c'est encore une fois, on revisite le thème du mythe du vampire, mais pas que.
Hein, et je crois que c'est produit pour Sky One,
peut-être.
C'était produit pour Sky, il me semble.
Alors, le pitch est très simple. Ça raconte l'histoire de Mitchell, qui est vampire, interprété par Aiden Turner, de George, qui est un loup-garou, interprété par Russell Tovey, et de Annie, qui est une fantôme, interprétée par Lenora Crichlow, et qui sont, qui ont une vie tout à fait normale dans le vrai monde, mais qui ont leurs pulsions. Et donc le pitch est très simple, c'est de savoir comment eux, malgré leurs différences, vont pouvoir s'intégrer dans le monde, being human, devenir des humains ordinaires. Alors que bon bah ok, hein, Mitchell, de temps en temps il faut qu'il aille faire une virée pour se gaver un petit peu de sang. George c'est pareil, Annie elle aime bien provoquer un petit peu l'hystérie en se montrant comme fantôme, donc ça
ouais,
va
sous
être
des draps.
Ouais ça va être leurs histoires et bon bah le rapport qu'ils peuvent avoir entre leurs conditions qu'ils ont et dont ils ne peuvent pas se défaire et le fait qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas adapté à leur pulsion, à leur pratique. Donc ça peut être intéressant, c'est anglais, mais bon bah ok, hein, c'est sur Orange Ciné Nouveau. On va attendre que ce soit rediffusé par une autre chaîne pour juger sur pièce. Sinon ce soir il y a également la saison 5 de Medium. Ah ouais, sur M6, bah ouais, c'est terminé Kaamelott, c'est terminé Prison Break.
Ouais. Non, Medium pas. Enfin non.
Ouais, sans plus.
Moi j'ai jamais accroché.
Non, plus, sans plus quoi. Bon, ok. Voilà.
Alors que tu prends Dollhouse, moi j'ai trouvé ça fabuleux. Mais alors, les 4 d'un coup, ça m'est resté un petit peu sur la soirée. J'ai fait.
Digestion.
Ouais. Sinon, mercredi, bonne initiative de TF1 qui nous a déjà fait ce genre d'initiative.
Enfin, il passe pas un match de foot.
Non, pas tous les mercredis quand même. Mais il l'avait fait avec des séries dont ils étaient les propriétaires de l'ensemble de la série. Alors que là, ils le font uniquement pour un épisode d'une série qu'ils n'ont pas encore diffusée. Et c'est pour faire intégrer un spin-off dans une série qui est l'un des fers de lance de TF1, Grey's Anatomy, qui apparaît mercredi à partir
c'est
de
pas 20h40. Seulement le frère, c'est pas seulement le frère de lance de TF1, c'est aussi l'audience qui rapporte le plus à la minute de diffusion pour les chaînes américaines.
Et ouais. Et donc mercredi, on passe.
C'est un succès monstrueux.
Deux épisodes de la saison 5, le 14 et le 15, quand le cœur s'emballe et l'intervention. Et la suite de l'intervention de Grey's Anatomy, on peut le voir dans Private Practice. À 22h15, la saison 2, l'épisode Les Complications. Après l'intervention, Les Complications. Parce que Private Practice est en fait la série de Kate Walsh. Kate Walsh qui joue le rôle d'Addison Montgomery dans Grey's Anatomy, mais qui à un moment se barre de l'hôpital, et puis elle va se mettre à son compte, enfin pas tout à fait, mais dans une autre clinique. Et en fait, c'est pour avoir cette série dérivée, cette série spin-off, comme on dit, Private Practice donc a été créé. Et pour faire un petit peu le rapport pour que les gens ne s'y perdent pas trop, de temps en temps, on fait ce qu'on appelle des crossovers, à savoir on mélange les personnages de chaque série. Mais comme ils étaient déjà dans l'autre, là c'est un petit peu plus facile quand même. Ils nous avaient déjà fait le coup du crossover avec les différents CSI, quoi. Quand ils avaient présenté le Mac Taylor, en fait, c'est Horatio Kane qui vient à New York pour enquêter sur un crime, tu vois, pour annoncer, pour lancer un petit peu la nouvelle série. Bon, bref, on avait déjà l'habitude.
Pour NCIS aussi, ils ont fait ça.
Pour NCIS aussi, je parle de TF1 là pour l'instant, c'est pour ça que j'étais plus branché sur les séries de TF1. Enfin bref, donc pour ceux qui aiment bien Grey's Anatomy, c'est mercredi et à partir de 22h15, donc un épisode de Private Practice. Sinon, c'est le retour de Batman. Noël, c'est sur Orange Ciné Happy, encore Orange, dès mercredi 20h40.
Batman Noël.
The Tick.
Where I am? On the roof, of course.
Avec Patrick Warburton, Lise Basset et bien entendu Nestor Carbonell, Batman Noël. Avec ses 8 épisodes, donc qui a été réalisé.
Une VF qui est plutôt de qualité d'ailleurs, il faut le signaler. Quand
elle est pas mal. Justement, parce que
c'était vraiment pas mauvais. Hein.
Justement, parce que quand au départ il dit oui, bonjour, je suis Batmanuel, c'est vrai que ça pète plus en français que en version originale, quoi. Parce que le ton n'est pas du tout le même, en fait, quoi. Les deux versions sont bien rigolotes de toute façon.
La voix du Tic en VF, l'introduction est à se pisser dessus de rire. C'est absolument gigantesque.
Enfin, ça c'est pour les chanceux donc qui.
Série qu'on le rappelle s'est arrêtée brutalement, hein, et dont seulement 5 épisodes ont été diffusés.
Non, mais il y en a 8. Ouais, mais il y en a eu 8 de tournée, quoi.
On est le seul pays où il y a eu l'ensemble de la série qui a été diffusée.
Ouais, parce que c'était diffusé sur Série Club au départ, c'est pour ça, quoi.
C'est un petit peu dommage.
Ah ouais.
Bon, retrouvera-t-il la feuille numéro 4 bis?
Ah, j'ai pas numéroté là, c'est pour ça, quoi.
Ah, c'est pire.
Allez, quelques films maintenant, quoi. Avec un western pour commencer, comme d'habitude, hein, le samedi soir sur RTL9 à 20h35, Les Grands Espaces de William Wyler. Ouais, alsacien. 1958. Bah oui, non, c'est vrai en plus. Si, c'est vrai. Avec Gregory Peck, Carole Baker, Chuck Connors, Gene Simmons et Burl Ives, qui a d'ailleurs obtenu pour ce rôle dans Les Grands Espaces l'Oscar du meilleur second rôle. C'est ce soir sur RTL9 à 20h35, Les Grands Espaces. Et sinon sur TCM ce soir à 20h40, Un shérif à New York de Don Siegel. Rien à dire, Clint Eastwood, Don Strode, Glee Jacob. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème.
Surtout qu'il est génial en bouseux que les autres essaient de rouler quand il dit à son taxi « Il y a combien de Massy à New York ? Il n'y en a qu'un seul ?» Oui ? Non, parce que ça fait 3 fois que vous me le montrez. Gigantesque.
Demain, sur France 2, un petit peu réchauffé. Oh, elle est facile, celle-là.
Oh non !
Avec Hit de Michael Mann. D'accord.
Ah bah, j'aurais dû m'en douter.
Mais par contre, un bon Ben Stiller sur RTL 9 à 20h35 demain, Zoolander.
Oh non.
Avec Owen Wilson. Ou alors un autre Michael Mann sur 13e rue demain soir à 20h40, Revelation, avec Al Pacino, Russell Crowe et Cri-Cri Plumer, suivi du Serpico de Sidney Lumet à 23h15. Ou alors demain soir également à 20h40 sur Ciné Cinéma Star, Star Trek 4, Retour sur Terre de Leonard Nimoy en 86.
Ou une souris de Mac ne fait pas de la reconnaissance vocale.
Voilà. Ou alors sur Cinépolar, sur Cinépolar, le classique de Friedkin, Police Fédérale Los Angeles à 21h avec Grissom, Peterson, William Defoe et John Pankoff.
Tu sais quand même, Thomas, la scène de Star Trek 4 que j'ai citée, c'est pour ça que quand Apple a commencé à faire des micros pour ses ordinateurs, ils l'ont mis sur le côté et avec pratiquement la même forme que la souris. Parce que ils se sont dit c'est un clin d'œil pour le film.
Et là tu prends le disque duo de pile et puis tu mets le numéro 12.
Alors par contre, pendant qu'il cale le CD, merci de m'avoir conseillé Terreur à Hong Kong pour lundi dernier. Parce que j'ai regardé, alors c'est vrai que le plus connu avec son titre original Meltdown.
Celui qui est passé sur NRJ 12.
Oui, avec Jet
Li. Oh putain.
Et c'était le passage de Die Hard avec un Jackie Chan horripilant. Mais c'est pas mal, hein. Moi j'étais mort de rire, Sabrina a été consterné, mais
Je suis tombé en plein milieu, j'étais là et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ok.
La réponse, donc Thomas, est-ce qu'il va retrouver le thème?
C'est une reprise?
Ah, la guitare joue le thème là.
Robert Vaughn.
Je sais plus. Loin de Los Angeles?
Oui, c'est Bullitt.
C'est Bullitt, ça ?
Le thème, on le reconnaît bien derrière.
Ah oui, oui, d'accord. Oui, mais si tu m'avais dit Steve McQueen, Robert Vaughn, donc.
Voilà, Bullitt, donc c'est sur Orange Ciné Géant, c'est demain soir à 20h40. Musique de Lalo Schifrin, le film de Peter Yates en 68.
Avec combien de lignes de dialogue ?
Oh, je sais pas, mais pas beaucoup.
Combien de minutes de vrombissement de moteur ?
Alors, il y a très exactement, d'après ce que j'ai compris, il y a moins de 20 lignes de dialogue.
Dans le film ?
Dans le film.
C'est pas possible. Bah non, puisque le film, la course de voiture est célèbre, mais c'est pas tout le film non plus.
Ouais, mais enfin bon, il y a beaucoup de passages très...
sans dialogue.
Tranquille, sans dialogue, d'accord. C'est vrai.
C'est ça qui fait justement toute la spécificité de ce film.
Passons à lundi, avec sur RTL 9, un classique de John Woo, Chasse à l'homme, 20h35, avec JCVD.
Et je l'ai revu sur la même chaîne quand ils
et Arnold Boslow.
Et Lance, oui, et Eriksen.
Et un film tourné dans le cadre de la campagne, La Coke, c'est mal.
Non, c'était avant.
Ouais, c'était avant, là.
C'était avant le grand tournoi. Le grand tournoi, c'était il y a fond dedans, mais là, c'était avant, je crois. Mais je l'ai revu, il était pas si mal, hein. Dans toute la partie, on va dire, Nouvelle-Orléans, avec le côté un peu social des sans-abri, c'est pas mal. Ouais, après, quand ça vire vraiment avec la poursuite à cheval, c'est à chier.
Ah ouais, bah, western, quoi. Alors, lundi sur Paris Première, également, un bon film d'Andrew Niccol, Lord of War, avec Nicolas Cage et Ethan Hawke, en 2005. Ou alors, sur Comédie, lundi, Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et mal foutu, de Max Pekas avec Klaus Obalski, Victoria Abril, Sylvain Green, Inge Steinbach. Oh là là là.
Je suis désolé, mais on me le demande, mais maintenant, barrez-vous.
Pas encore. Sur Cinéfix, lundi, à 21h 2019, après la chute de New York de Sergio Martino en 83. Ça te parle, hein, mon gars, quoi. Parce que si tu calcules 2019 après la chute de New York, donc il faut déjà que New York soit tombé.
Oui.
Et si New York est tombé, ça doit être.
Non, mais ce film.
Donc ça doit faire.
Ce 2000. Film est dans le top
donc,
de Nanarland.
On se retrouve pratiquement en 4019.
Ah oui, 2019 ans après la chute de New York.
Ouais,
oui.
Ou alors et 1983, oui. On va dire.
Apprends les maths avec le supplément week-end. Non, mais ouais. ce film est dans le top de Nanarland. Ils disent que ça fait partie de ces films italiens où on filme principalement la nuit pour masquer l'absence de décor.
Ouais, non, mais c'est le
carton pâte.
On est en plein Mad Max, Mad Maxery à fond. Mais c'est l'histoire d'un bonhomme qui se retrouve d'après lui tout seul. Et qui doit donc le dernier, et donc il doit chercher des femmes pour justement procréer et sauver la race humaine. Bon, c'est ça le pitch du film en fait, quoi. Mais enfin bon,
c'est un Mad Max qui essaierait de copier pitoyablement l'histoire de Je suis une légende.
Et ce sera intéressant de voir s'il est effectivement chroniqué dans le bouquin Tir Roupé de Laurent Elbé, avec un passage consacré au cinéma post-apocalyptique italien.
Ouais, il y a des chances.
Il y avait très probablement.
Sergio Martino, il y a des chances. Il oui. y a des chances.
Laurent, si tu nous écoutes.
Alors, mardi sur W9 à 20h35, Big de Penny Marshall. Avec Tom Hanks, magnifique, Elizabeth Perkins et John Hurt, ou alors sur NT1, le mariage de la carpe du lapin ou de la daube et du dessert, avec tout d'abord à 20h35 Edward Scissorhands de Tim Burton, là on dit rien, on applaudit, mais après à 22h30, et ça je peux le dire parce que je l'ai regardé, Sanctimony UV Ball en 2000. Alors UV Ball, il est capable de faire des daubes comme c'est pas permis. Ou mais également du très trash, du très violent, mais du très vas-y sans problème, mais y a des fois tu te demandes, en plus quand tu vois le casting d'enfer qui tue de la mort, tu te dis c'est pas possible de louper le truc, et pourtant il réussit à le louper. C'est pas des conneries, j'ai eu du début jusqu'à la fin. Sanctimony avec Casper Van Dien, Michael Paré, Eric Roberts, Jennifer Rubin, Catherine Oxenberg, et il y en a encore d'autres, je te dis quoi, c'est con, c'est dommage et tout, parce que Casper Van Dien, il joue un rôle sympathique, hein, jeune cadre dynamique un petit peu Golden Boy et tout, quoi, tu vois, quoi, la American Psycho, qui commence à dégommer du monde, parce
ah ouais.
que ça lui plaît comme ça et tout, quoi, alors des grosses tueries et tout quand même, hein, tu vois, avec des guns et tout, mais c'est complètement irréaliste et filmé n'importe comment, tu te demandes, quoi. Et bon, voilà, quoi, il y a pratiquement rien qui va sauver un petit peu le film, même pas les acteurs, tu vois, quoi. Casper Van Dien en tête, et là, vraiment, il faut le reconnaître, quoi. Par contre, Eric Roberts, bon, Michael Paré tiennent leur rang normal, hein, ok, quoi, ils sont là pour ramasser les moutons, donc il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment dommage, hein, parce que c'est vraiment n'importe quoi.
Et tant que tu parles de Eric Roberts, soulignons qu'il sera à l'affiche du The Expendables de Stallone, avec le casting d'enfer, Statham, Jet Li et consorts. Et Stallone a lâché une info la semaine dernière. Il disait, est-ce qu'il y aura Schwarzy dedans? Il a annoncé qu'il y aurait Bruce Willis. Alors, tenez-vous bien, il y aura une scène de la scène des grands classiques de briefing avant l'émission où ça va charcler. Donc il va rencontrer dans une église Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, où Bruce Willis doit donner la mission à Stallone, et Stallone, il a un concurrent Schwarzy à côté, dit « Toi, j'aurais dû te tuer quand j'avais l'occasion. » Je pense que ça va être bien durer.
Schwarzy, il a autre chose à foutre. Hein.
Mais justement, et c'est pour son pote Stallone, il va apparaître dans le film juste pour trois phrases. Et puis...
Vous êtes au courant quand même ce qu'a fait le gouverneur Schwarzy? Parce que vous savez qu'il est en opposition actuellement avec l'Assemblée législative de Californie sur les réformes qu'il doit mener. Lui, c'est un républicain, mais il mène des réformes très progressistes, notamment lui il voudrait réduire le nombre de gars dans les prisons parce que ça coûte cher, et faire pas mal de réformes. Et en même temps, il a promis à la sécurité sociale. Et il arrête pas de se faire retoquer par le Sénat, qui essaie de faire passer des lois qu'il estime tout à fait secondaires. Donc il a dit qu'il était qu'il trouvait tout à fait déplorable, dans une lettre officielle signée de sa main, qu'il trouvait tout à fait déplorable que actuellement le Sénat se préoccupe de ces points de loi qui sont totalement abscondes, alors qu'actuellement le pays est en proie à une grave crise économique et n'arrive pas à payer ses finances, qu'il y a les incendies, qu'il y a les problèmes d'eau à Los Angeles, il y a des geysers monstrueux parce que le réseau d'eau ne tient plus le choc et tout ça. Et il y en a un qui a juste regardé les premiers mots des deux, deux chapitres.
I fuck you.
Voilà. ça n'est qu'une pure coïncidence.
C'est énorme.
Et là, on se dit quand même, je vais la remettre profond cette fois-ci.
C'est énorme.
Et là, on retrouve le Schwarzy des bons moments. Ah, c'est agréable.
Tu te rappelles, je t'avais dit que je te tuerais en premier. J'ai menti.
toujours mardi au cinéma sur 13e rue Le Mexicain à 20h40 de Scott Thomas en 2004. Alors là, c'est également, c'est comme Sanctuary Money, c'est le genre de film qui dit bon, je vais regarder, ça a l'air intéressant, ça a l'air pas mal et tout. Sauf que là, Le Mexicain, la différence, le personnage principal et l'acteur principal est complètement inconnu. Après, il y a toujours les seconds couteaux qu'on aime bien.
Ah, et tu parles pas du Mexicain avec Brad Pitt alors ?
Non, pas du tout, d'accord. Pas du tout. Un autre qui s'appelle Le Mexicain, quoi, justement. Mais par contre, eh bien, après une première scène d'intro qui apparaît un petit peu too much, quoi, on va dire, un petit peu dans le même style que Sanctimony, eh ben, on se prend à se regarder le film assez agréablement, on va dire, hein, parce que bon, bah, ok, on va dire que comme ça se passe dans le quartier East LA, c'est-à-dire le quartier mexicain, le quartier hispano, on va dire, du côté de Los Angeles, eh bien, on peut pas parler de cinéma asiatique, on va dire du kung-fu mexicain, quoi. Parce que Fabian Carillo, faut dire que bon, il a pratiqué les arts martiaux et il se débrouille pas trop mal. Et en fait, le truc, c'est, il arrive, il est de retour dans son quartier et puis bon, il se rend compte que son quartier est contrôlé par un gang, gang qui va foutre le feu à une maison, qui va tuer des gens, qui va essayer de dégommer son père et tout ça. Et donc, bah lui, comme c'est un ancien marine et puis qu'il connaît un petit peu les techniques de combat, ben il va défendre le quartier contre ce gang. Alors du côté de Second Couteau, il y a quand même Gary Buzet,
ouais,
Lorenzo Lamas,
ouais,
et Roberto Lazzardo.
Ah oui, donc il a vraiment pris le catalogue.
Le catalogue, tu vois. Et là, il y a pas de problème. Et bon, ça fonctionne pas mal, faut dire quoi. Hein, justement, par rapport à Sanctimony, là, c'est vraiment. Mais bon, c'est le petit film agréable, petit téléfilm, hein, je sais même pas si c'est sorti en salle, quoi. Mais qui est agréable à regarder et tout, bien bourre-pif et tout, bonne scène d'action, ça rigole bien en plus, quoi, c'est pas mal, c'est dépaysant, quoi, on va dire, hein, de se retrouver dans ce truc-là. Donc c'est sur 13ème rue, Le Mexicain, mardi prochain, de Scott Thomas avec Fabian Carillo. Et sinon, à 23h, après Le Mexicain, sur Syfy, on peut se mater un petit peu de Corinne Lévesque. 23h30, les requins tueurs.
Invité au Toulouse Game Show.
Danny Lerner en 2005 avec Vanessa Angel, Corbin Bernsen et Todd Jensen.
Ah bah voilà, c'est un DVD histoire à trouver en solderie, ouais, pour lui faire dédicacer.
Alors c'est
assez grand.
C'est l'histoire où t'as des ovnis qui tombent dans le triangle des Bermudes. Et donc là, le comportement des requins devient les requins commencent à être vachement agressifs du fait.
Ils ont lu Le Capital de Karl Marx en plus. Donc
voilà, c'est voilà. Ça quoi. Voilà, donc sinon un très bon film, deux très bons films également mardi prochain sur Cinéma Classique à la file en plus, hein, 20h40, Missouri Breaks d'Arthur Penn. Arthur Penn qui nous avait fait Little Big Man bien sûr, avec Marlon Brando. Alors en plus c'était la rencontre mythique à l'époque de Marlon Brando, l'ancienne génération, et Jack Nicholson, la nouvelle génération, 76. Tu vois, la nouvelle génération des acteurs rebelles.
C'était pas c'était pas le film qu'il avait fait juste pour le fun.
Peut-être.
Je crois qu'il a fait un caméo uniquement
là,
gratuit.
Là, c'est pas un caméo. Hein. Là, ok, hein, c'est le tueur à gages qui vient pour éliminer quelqu'un, qui est payé par les grands propriétaires et tout pour éliminer quelqu'un. Et puis bon, c'est l'attitude, quoi. C'est-à-dire, c'est un western, mais les personnages principaux, Marlon Brando en tête et Jack Nicholson, sont un peu décalés par rapport au code normaux du western, c'est-à-dire au code de la manière d'agir dans les westerns et tout, quoi. Surtout Marlon Brando, quoi, qui en fait, on va pas dire des tonnes, quoi, mais bon, qui en fait pas mal, quoi. C'est assez, assez intéressant, de toute façon. Et c'est suivi d'un des grands classiques du western des années 50, le George Stevens, que je vous avais chroniqué la semaine dernière, ou il y a deux semaines, ou que j'avais droppé, quoi. À 22h45, c'est L'Homme des Vallées Perdues avec Alan Ladd, Jean Arthur, Van Elflin, Jack Palance et Ben Johnson. Mercredi sur RTL9, 22h40, Justice Sauvage de Steven Seagal avec William Forsythe et Jerry Orbach. Ou alors sur NT1 à 22h20, Raptor Island de Stanley Isaac avec Lorenzo Lamas, Stephen Bauer, Hayley Ormond et Peter Jason. Ou alors Sifi qui vous propose une soirée prophétie, mais pas avec le 1, ça commence avec le 2, prophétie 2 de Greg Spence en 98 avec bon bah dans le rôle principal Christopher Walken bien sûr, Russell Wong, Jennifer Beals et Eric Roberts. Et dans le prophétie 3 à 22h05 de Patrick Lussier, il y a toujours Walken bien sûr et également Vincent Spano. Mercredi encore sur Ciné Cinéma Club, là c'est du grand, c'est du lourd et c'est du primé, à 20h40, YOL, La Permission de Dimas Gounet et Serif Garel. Ça te dit quelque chose?
Oui, oui. Ah, enfin, j'ai pas vu, mais la VHS trônait dans la VHS tech de mes parents.
Ah oui, oui, Palme d'Or à Cannes en 82, donc... avec Taki Kakan et Serif Césaire, c'est du beau film. Faut dire ce qui est, c'est nickel quoi. Sur Cinéma Classique en même temps, mercredi prochain donc à 20h40, c'est Arrivé Demain de René Clair en 43 avec Dick Powell et Lina Darlene, cette histoire de reporter qui se fait délivrer les nouvelles par un fantôme qui apparaît et qui va lui dire ce qui va se passer le lendemain, quoi, pour qu'il soit en avance par rapport à tout le monde et tout, quoi. C'est vachement bien foutu. Et c'est le film qui a donné lieu à pas mal d'autres films ou pas mal d'autres prétextes.
Ou une série
de
télé.
Jouer, sur les paradoxes temporels, quoi.
Demain à la une.
Voilà, des trucs comme ça. Bon, Demain à la une, hein, c'est vraiment, l'exemple parfait. De toute façon, la série, hein, qui est, basée sur le même truc que ce film de René Clair, donc. En 43 avec le grand Dick Powell et la magnifique Lina Darlene. Jeudi sur France 3 à minuit, et là c'est pas mal, hein. Bon bah c'est après le Alexandre d'Oliver Stone, c'est pour ça quoi, vous en prenez pour 3h30 presque. Mais c'est un bon petit polar sympathique, Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black avec Robert Downey et Val Kilmer, magnifique dans le film les deux, hein, de toute façon quoi. Sur Paris Première jeudi à 20h35, La Guerre des Boutons de Yves Robert avec André Tréton, Martin Lartigue et Jean Richard. Sur Sci-Fi à 20h45.
C'est pas le gamin à l'époque.
Hein. Abominable de Ryan Schifrin, le fils de Lalo. C'est son premier film d'ailleurs en 2006 avec Matt McCoy, Ale Joel et Jeffrey Combs. Sur AB1 à 20h40, un film sympathique de John Badham, La Manière Forte, avec Michael J. Fox et James Woods.
Alors, oui,
ouais, facile, oui, oui, quoi, facile, hein. Ouais, ouais. Et avec, on le redécouvre maintenant, on va bientôt le redécouvrir dans l'Avatar, Steven Lang, qu'on avait vu dans Public Enemy, et là, il est également dans La Manière Forte, avec, également pour le rôle féminin, Annabella Sciorra. Ou alors sur la chaîne Polar, jeudi prochain, 21h, Association Criminelle de G.H. Lewis en 55, avec Cornel Wilde, Gene Wallace, Richard Conte et Brian Donlevy. Et je termine avec vendredi sur Ciné Cinéma Club à 21h, La Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven. Rien à dire, excellent, magnifique. Ou si vous n'aimez pas ce genre de film, autre chose, un autre style, tous les genres, pas de problème. Disney Cinemagic à 20h30, Mary Poppins de Robert Stevenson en 64, avec Julie Andrews, Dick Van Dyke. Magnifique aussi.
Oui, tout à fait.
Magnifique aussi. Ou alors, si vous êtes un petit peu déviant, sur CinéFX, 21h, Hercule contre Moloch, avec Gordon Scott dans le rôle d'Hercule.
Ouais.
C'est un Gianfranco Ferroni de 63, un pur et un dur.
Un pur,
pas de problème.
Dur,
de toute façon, en ce moment,
pas les pires.
Alors en ce moment, sur CinéFX, là vous en êtes déjà loupé deux, hein, Hercule contre Ulysse et puis Hercule à la conquête de l'Atlantide. Je passe tous les vendredis sur CinéFX, il y a un Hercule. Donc là, vendredi prochain, c'est Hercule contre Moloch. Mais je crois qu'ils vont nous passer toute la série des Hercules. Profitez-en là, parce qu'il y en a eu une tapée et c'est pas mal. Quoi.
Et c'est pas mal, mais au bout d'un moment, tu vois la descente.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça
là,
dépend.
Tu fais,
ça dépend, des Hercules, hein, de toute façon, quoi.
Ah,
ça dépend des acteurs.
Fortement.
Hein. Mais Gordon Scott était un bon Hercule.
Bon, alors rendez-vous.
Un petit dernier pour la roue.
Mais tu me fais tout changer.
Vendredi prochain sur Pink TV à 2h30, Harcèlement au chantier de Marc Manus, en 2004. C'est un 18, moins 18, et il est un peu X.
Ça aurait été con de pas te passer à côté.
T'es vraiment un salaud, un sale gouin, un sale... enfin, ce que tu veux. Du coup, je te félicite pas, parce que ça... Voilà, j'ai dû remettre un fond.
Non,
on va faire...
Il a pas besoin de nous pour se planter lui-même.
Pourquoi il y aurait pas de X-Gay, quoi?
Non, d'accord, mais il est pas encore 22h30. Ceci dit, donc tout à l'heure en dédicace à la librairie Terre de Légende, Christophe Gibelin pour les Ailes de Plomb et pour son Aéro Artbook à partir de 15h, et dimanche prochain à la Bourse de la Bande Dessinée à Ramonville. C'est quand déjà pour pour Grenade?
C'est depuis hier jusqu'à demain.
C'est jusqu'à demain.
Voilà donc on a le Bande, ouais. C'est ce soir 21h.
Merci. Et pour ceux qui bizarrement ont... sont tombés par hasard sur cette émission complètement impromptue. Je suis sûr qu'ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai loupé quelque chose, j'ai manqué le début. Heureusement Thomas, lui, il a pensé à prendre des notes.
Voilà, c'est notre zapping
à
nous. Alors, nous avons eu des avions, des soucoupes volantes, des arabes, du bricolage, des prisonniers, des dépassements en péniche, du crossover médical après l'intervention, la complication. On a eu une tique, on a eu du post-apocalyptique italien, du loupé, un loupable, une carpe, un lapin, du raptor, des requins tueurs rendus marteau, par des aliens tombés aux Bermudes, du super califragilique de sous, et on finit par du X-gay.
Non d'un Auvergnat, mais pas de plusieurs. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent revoir, ils peuvent réécouter cette émission, voir nos chroniques écrites, jouer à des quiz stupides, aller sur nos Facebook ou sur nos Twitter, voir carrément aller commenter sur nos blogs et faire plein de choses. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet de l'émission supplementweekend.fr. Vous tapez supplementweekend dans Google et on est en premier, ou supplementweekend sans accent ni tiret ni espace. .fr et vous tombez directement sur nous, ou sinon sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. La semaine prochaine, j'ai pas encore fait le programme, je sais pas si toi t'as...
J'aurai peut-être prédiction la semaine prochaine.
Oui, c'est une belle prédiction. Oui.
Mais oui, je prédis qu'il y aura prédiction, c'est pas mal ça.
C'est pas mal. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, bye bye. De suite, du sport va vous passer son top des drogués dans le sport.